Chapitre 3. Écho. La nuit où l'infâme bâtard au vif assassina le roi subtil dans sa chambre, la reine montagnarde du roi servant vérité décida de quitter la sécurité du château de Castelserre. Seule et enceinte, elle s'enfuit dans l'obscurité froide et inhospitalière. Certains prétendent que le bouffon du roi, craignant pour sa propre vie, implora sa protection et partit en sa compagnie. Mais il ne s'agit peut-être là que d'une légende inventée par les résidents de la citadelle pour expliquer sa disparition. Avec l'aide discrète de personnes compatissant à sa situation, la reine Kétricaine parvint à traverser les six duchés pour regagner le foyer de son enfance au royaume des montagnes. Là, elle s'efforcerait de découvrir ce qu'il était advenu de son époux, le roi servant vérité, car selon son raisonnement, s'il vivait encore, il était désormais le souverain légitime des six duchés et leur dernier espoir face aux déprédations des pirates rouges. Quand elle arriva au royaume des montagnes, son roi ne s'y trouvait plus. On lui apprit qu'il avait quitté Jaamp pour continuer sa quête et l'on n'avait plus reçu aucune nouvelle de lui depuis. Seuls quelques-uns de ses hommes étaient revenus, l'esprit confus et certains victimes de blessures qu'on eût dites reçues au combat. Le cœur de la reine sombra dans le désespoir et elle demeura un temps à l'abri parmi les siens. Une des tragédies de sa douloureuse aventure fut la mise au monde d'un héritier au trône des loin-voyants, mais d'un héritier mort-né. On dit que ce nouveau coup la fortifia dans sa conviction que retrouver son roi était essentiel, car, si elle n'y parvenait pas, la lignée du roi vérité s'éteindrait avec lui et le trône irait à Royal l'usurpateur. Munie d'une copie de la carte dont son époux espérait qu'elle le guiderait jusqu'au pays des anciens, la reine Kétricaine se lança sur ses traces. Accompagnée par la fidèle ménestrelle Astérie et plusieurs serviteurs, elle s'enfonça dans la formidable forteresse que sont les montagnes, où trolls, follettes et magie mystérieuse de ces régions rébarbatives ne furent que quelques-uns des nombreux obstacles qu'elle dut affronter. À force de persévérance, pourtant, elle réussit à gagner le pays des anciens. Ses recherches furent longues et pénibles, mais elle parvint enfin au château secret des anciens, immense édifice de pierre noire et d'argent. Là, elle découvrit que son roi avait persuadé le roi dragon des anciens de se porter au secours de son royaume. Le même roi dragon, n'ayant pas oublié l'antique serment d'alliance qui unissait son peuple au six duchés, ploya le genou devant la reine Kétricaine et son époux pour les emmener sur son dos, en compagnie de la fidèle ménestrelle Astérie Chant d'Oiseau. Le roi Vérité fit déposer sa reine et sa ménestrelle à Castelserre, puis, avant que ses loyaux sujets eussent le temps de saluer son retour, avant même que son peuple sût qu'il était revenu, il repartit. Son épée scintillant au soleil, chevauchant le roi dragon des anciens, il s'éleva dans le ciel pour combattre les pirates rouges. Durant cette longue guerre sanglante et triomphale, le roi vérité mena ses alliés contre l'ennemi, et partout où les gens voyaient dans l'azur les ailes des dragons étincelantes comme des pierres précieuses, ils se savaient protégés par leur souverain. Comme les forces royales frappaient les citadelles et la flotte adverse, ces ducs fidèles suivaient leur exemple, et les rares navires rouges qui échappèrent à la destruction firent nos côtes à pleine voile pour raconter dans les îles d'outre-mer le courroux des loin-voyants. Une fois nos rivages débarrassés des envahisseurs qui rôdaient au large et la paix rétablie dans les six duchés, le roi vérité tint la promesse qu'il avait faite aux anciens. Pour prix de leur aide, ils avaient demandé qu'il résidât avec eux dans leur lointain pays, sans jamais revenir en son royaume. Certains prétendent qu'il reçut une blessure mortelle au cours des derniers jours de la guerre des pirates rouges et que les anciens n'emportèrent que sa dépouille. Les mêmes affirment que le corps du roi vérité gît dans un caveau d'ébène et d'or luisant, au cœur d'une immense caverne de leur citadelle des montagnes. Là, les anciens honorent pour l'éternité l'homme valeureux qui sacrifia tout pour secourir son peuple. Mais d'autres soutiennent que le roi vérité est toujours en vie, qu'il festoie en compagnie des anciens dont tout le royaume le porte au nu, et que, Si jamais les six duchés se trouvent à nouveau menacés, il accourra pour aider ses sujets avec l'appui de ses héroïques alliés. Le bref règne de vérité loin-voyant, de Nolus le scribe. Je regagnai l'oppressante obscurité de ma petite cellule. Quand j'eus refermé l'accès au passage secret, j'ouvris la porte qui donnait sur les appartements du fou, dans l'espoir de bénéficier d'un peu de lumière naturelle. Le gain fut peu appréciable, mais il suffit à mes besoins réduits. Je fis mon lit, puis parcourus du regard la pièce austère. Elle était parfaitement anonyme, et donc sans danger pour moi. Elle aurait pu être occupée par n'importe qui, ou par personne, comme je me le dis avec ironie. Je saignis mon épée disgracieuse et m'assurai de la présence de mon couteau à ma ceinture avant de quitter ma chambre. Le fou m'avait laissé une généreuse portion de son petit déjeuner. Froid, le repas n'avait rien de particulièrement appétissant, mais ma faim compensa son manque d'attrait. Je terminai les plats, puis, me rappelant les instructions qu'avait reçues Tom Blaireau, je descendis la vaisselle aux cuisines. À mon retour, je rapportai du bois pour la cheminée et de l'eau pour les brocs. Je vidai les cuvettes de toilette, les nettoyais, bref, j'effectuais toutes les petites tâches indispensables du ménage d'une chambre. Pour finir, j'ouvris grand les volets et les fenêtres pour laisser entrer l'air, et je constatai que la journée s'annonçait belle, bien que frisquette. Je les refermai avant de sortir. J'avais quartier libre en attendant la promenade à cheval de l'après-midi. J'envisageais de me rendre à Bourg-de-Castelserre, mais rejetai promptement cette idée. J'avais besoin de mettre de l'ordre dans mes sentiments pour Gina avant de la revoir, et je souhaitais réfléchir à ses inquiétudes pour heure. En outre, je ne tenais pas à courir le risque de me faire suivre par les pies. Moins je manifesterais d'intérêt pour Gina et heure, plus ils resteraient en sécurité. Je me dirigeais donc vers les terrains d'entraînement. Foncresson, le maître d'armes, m'accueillit par mon nom et me demanda si Valarie s'était montrée à la hauteur de mes talents. Je répondis par un grognement appréciateur, un peu étonné qu'il se souvienne si bien de moi. C'était à la fois réconfortant et déconcertant, et je dus me convaincre que le meilleur moyen, peut-être, pour qu'on ne reconnaisse pas en moi le fils de chevalerie qui avait vécu à Castelserre 16 ans plus tôt, consistait à consolider mon identité de Tom Blaireau. Je pris donc un moment pour bavarder avec le maître d'armes, et j'avouai en toute humilité que Valarie s'était révélée trop forte pour moi. Je lui demandai de me recommander un adversaire, et, à plein poumon, il appela un homme à l'autre bout des terrains. L'intéressé répondit en s'approchant avec la démarche souple et bien équilibrée d'un combattant aguerri. Des fils gris apparaissaient dans la barbe de Wim, et sa taille commençait à s'épaissir. Je lui donnais dans les 45 ans, soit à peu près 10 de plus que moi, et pourtant il s'avéra un adversaire de taille. Il avait plus de souffle et d'endurance que moi, mais je connaissais quelques passes à l'épée qui rétablissaient la moyenne. Cela ne l'empêcha pas de me battre 3 fois de suite, mais il eut la gentillesse de m'assurer ensuite que mes capacités et ma vigueur reviendraient avec la pratique. Maigre consolation. On aime à penser qu'on s'est maintenu en forme au cours des années, et de fait, mon corps s'était endurci aux travaux d'une petite ferme et aux efforts de la chasse, mais il ne possédait plus du tout la musculature, ni le souffle nécessaire à un guerrier, et j'allais devoir le rebâtir de fond en comble. J'espérais ne jamais avoir besoin de ses compétences, mais j'étais résigné à m'exercer quotidiennement. Malgré le froid de l'air, la transpiration collait ma chemise à mon dos quand je quittais les terrains d'entraînement. Je pris le chemin des thermes, derrière la caserne, parfaitement conscient que je pénétrais sur le territoire des gardes et des employés d'écurie. À 7 heures du jour, il n'y aurait guère de monde, et il conviendrait mieux à mon personnage de Tom Blaireau que je m'y rende, plutôt que de tirer de l'eau pour me préparer un bain en pleine journée. Les thermes se trouvaient dans un vieux bâtiment en pierre brute, sans étage et tout en longueur. J'ôtai mes vêtements trempés de sueur dans le vestiaire qui donnait dans les salles d'étuves et de toilettes, puis les pliai avant de les déposer sur un banc. Je passai l'amulette de Gina par-dessus ma tête, la fourrai sous ma chemise, et, nu comme un ver, je poussai la lourde porte qui ouvrait sur les thermes proprement dit. Il me fallut quelques instants pour m'habituer à la pénombre. Des gradins suivaient le pourtour de la salle autour d'un foyer bas, et la seule lumière provenait du rougeoiement terne des braises dans leur enceinte de pierre. Le feu avait été visiblement bien approvisionné. Comme je m'en doutais, les étuves étaient pratiquement désertes, hormis trois outriliens qui faisaient partie du contingent de garde de la Narcheska. Ils se tenaient dans leur coin, au fond de la pièce embrumée, et conversaient tout bas, dans leur langue, aux consonances dures. Après avoir jeté un regard dans ma direction, ils firent comme si je n'existais pas, et je ne me fis pas prier pour les laisser à leur intimité. À l'aide d'une louche, je pris de l'eau de la barrique installée dans un angle de la pièce et en aspergeai copieusement les pierres brûlantes. Une colonne de vapeur s'en éleva, que j'inhalai profondément. Je demeurai près du foyer fumant aussi longtemps que je le supportais, jusqu'à ce que je sente la transpiration sourdre de mes pores et ruisseler sur ma peau, piquante sur les égratignures mal refermées de mon cou et de mon dos. Il y avait près de moi une boîte de gros sel et quelques éponges, tout comme quand j'étais adolescent. Je me frottais vigoureusement avec le sel en grimaçant de douleur, puis m'en débarrassais à l'aide des éponges. J'avais presque terminé quand la porte s'ouvrit et qu'entrèrent une dizaine de gardes. Les vétérans du groupe avaient l'air là, tandis que les plus jeunes poussaient des cris de joie et se bousculaient avec une brutalité bon enfant, tout gaillard de la fin de la longue patrouille dont ils revenaient. Deux jeunes gens entreprirent de regarnir le foyer, cependant qu'un troisième jetait de l'eau sur les pierres. Une muraille de vapeur monta, et le brouhaha des bavardages emplit soudain la pièce. Deux hommes plus âgés pénétrèrent à leur tour dans l'étuve, à pas plus lents. Ils ne faisaient visiblement pas partie du groupe. Leur physique noueux et leur corps couturé de cicatrices témoignaient de leurs nombreuses années de service. Ils étaient plongés dans leur conversation, où ils paraissaient se plaindre de la bière de la salle des gardes. Ils me saluèrent, et je leur répondis d'un grognement avant de me détourner, la tête baissée, le visage dissimulé. L'un d'eux m'avait connu quand j'étais enfant. Il s'appelait Lame, et le vieux garde avait été un ami proche. J'écoutais ses jurons familiers tandis qu'il maudissait la raideur de son dos. Que n'aurais-je pas donné pour l'accueillir franchement et bavarder avec lui? Mais je me contentais de sourire à part moi, en l'entendant débiner la bière, et je lui souhaitais de tout mon cœur d'être heureux. J'observais subrepticement comment nos hommes d'armes de Castelserre allaient s'entendre avec les Outriliens. Curieusement, ce furent les plus jeunes qui les évitèrent en leur lançant des regards méfiants. Les plus vieux, ceux qui avaient participé à la guerre des Pirates Rouges, paraissaient plus à l'aise. Peut-être, lorsqu'on est resté soldat assez longtemps, la guerre devient-elle un simple métier, et a-t-on plus de facilité à voir en l'autre un guerrier semblable à soi plutôt qu'un ancien ennemi? En revanche, il me sembla que les Outriliens montraient plus de réticence que les gardes de Serre à échanger des civilités. Mais n'était-ce pas à mettre sur le compte de la prudence naturelle de soldats désarmés et entourés d'inconnus? J'aurais aimé pouvoir assister à la suite de la rencontre, mais c'était dangereux. L'âme avait toujours eu l'œil vif, et je ne tenais pas à m'attarder au risque qu'il me reconnaisse. Comme je me levais, un jeune garde me heurta de l'épaule. Ce n'était pas un accident, et il ne fit guère d'effort pour le dissimuler. Il s'en servit comme prétexte pour s'exclamer.
« Vous ne pouvez pas faire attention, non? Qui êtes-vous d'abord? De quelle compagnie ?»
C'était un gaillard blond roux, peut-être d'origine bogienne, bien musclé, et doté de l'ardeur belliqueuse de la jeunesse. Je lui donnais dans les 16 ans. Il devait mourir d'envie d'impressionner ses collègues plus aguerris. Je le regardais avec la tolérance méprisante d'un vétéran pour un bleu. Une réaction trop passive l'aurait seulement invité à se montrer plus agressif. Or, je voulais m'éclipser le plus vite possible, sans trop attirer la curiosité. « Regarde plutôt où tu marches, petit, » répondis-je d'un ton calme. Et je le contournais, mais il me donna une bourrade par derrière. Je me retournais, prêt au combat, mais sans laisser percer d'hostilité dans mon attitude. Il était déjà en garde, point levé. Je secouai la tête d'un air indulgent, et plusieurs de ses compagnons rirent sous cap. « Laisse tomber, petit, » dis-je d'un ton d'avertissement.
« Je vous ai posé une question !» lança-t-il hargneux.
« En effet, » fis-je calmement, « et si tu avais daigné te présenter avant d'exiger de savoir mon nom, j'y aurais peut-être répondu. C'était l'usage autrefois à Castelserre. » Ses yeux s'étrécirent.
« Moi, c'est Rasto, de la garde de Briand. Je n'ai pas honte de mon nom ni de ma compagnie.
Moi non plus, assurai-je. Tom Blaireau, serviteur de Cire Dorée, qui m'attend présentement. Bonne journée.
Le larbin de Cire Dorée, j'aurais dû m'en douter.
Il prit un air dégoûté, puis se tourna vers ses camarades, pour qu'ils confirment sa supériorité.
Vous n'avez rien à faire ici. C'est réservé aux gardes. On n'accepte ni les pages, ni les laquais, ni les serviteurs spéciaux.
Vraiment ? Un petit sourire ironique sur les lèvres, je le parcourus du regard. Ni les pages, ni les laquais ? Très curieux. Tous les yeux étaient braqués sur nous. Espérer passer inaperçu était vain désormais. J'allais devoir asseoir mon identité de Tom Blaireau. Le jeune homme rougit sous l'insulte et son poing jaillit vers moi. J'esquivais et fis un pas en avant. J'aurais pu riposter à sa façon, mais je préférais lui faucher les jambes d'un coup de pied. C'était une attaque plus digne d'un habitué des bagarres de taverne que du garde du corps d'un grand seigneur. Et mon adversaire en fut visiblement surpris et outré à la fois. Alors qu'il trébuchait, je lui envoyai mon talon dans les côtes, lui coupant la respiration. Suffoquant, il s'effondra périlleusement près du foyer, et je m'approchai vivement pour le clouer au sol en posant mon pied sur sa poitrine.
« Laisse tomber, gamin, avant que ça tourne mal !» lui dis-je d'un ton menaçant.
Deux de ses camarades voulurent intervenir, mais l'âme lança
« Halte !»
et ils s'immobilisèrent. Le vieux garde s'avança, une main sur les reins.
« Ça suffit. Je ne veux pas de ça ici. »
Il jeta un regard noir à un homme, probablement l'officier responsable de la patrouille.
« Ruffou, reprends ton roquet en main. Je suis venu pour me reposer le dos, pas pour me faire enquiquiner par un fanfaron mal dressé. Fiche-moi ce gosse dehors. Vous, là, Blaireau, enlevez votre pied de sa poitrine. »
Malgré son âge, ou peut-être grâce à lui, le vieux lame commandait le respect de tous les gardes. Je m'écartai, et le jeune homme se releva en me jetant un regard où brûlait à la fois le dépit et l'envie de meurtre. Mais son officier ordonna
« Dehors, Rasto ! On t'a assez vu pour aujourd'hui. Penn et Locke, vous le suivez, pour avoir eu la bêtise de vouloir défendre un imbécile !»
Les trois intéressés passèrent devant moi, les épaules bien redressées, sans hâte, comme s'ils se souciaient de la réprimande comme d'une guigne. Les gardes restants se mirent à murmurer entre eux, mais il paraissait convenir que leur camarade aurait dû s'appeler Rusto plutôt que Rasto. Je me rassis, estimant préférable d'attendre que les jeunes gens se soient rhabillés et aient quitté les termes avant de sortir à mon tour. À mon grand désarroi, l'âme s'approcha d'un pas raide et s'installa près de moi. Il me tendit la main et, quand je la saisis, j'y sentis les cales du bretteur.
« L'âme Avrebuse, » annonça-t-il d'un ton solennel. « Je sais reconnaître les cicatrices d'un homme d'armes, au contraire du petit roquet. Ne faites pas attention aux aboiements de ce gamin. Les termes vous sont ouverts. Il est nouveau dans sa compagnie et il en est encore à essayer d'oublier que Ruffou l'a engagé pour rendre service à sa mère. »
« Tom Blaireau, » répondis-je. « Je vous remercie. » Je me suis rendu compte qu'il cherchait à se faire bien voir de ses camarades, mais j'ignore pourquoi il m'a choisi comme victime. Je n'avais aucune envie de me battre avec lui.
« C'était évident, et c'était manifestement une chance pour lui. Quant à ses motifs, ma foi, il est jeune, et il prête trop l'oreille au racontard. On ne juge pas quelqu'un sur des commérages. Vous êtes originaire de la région, Blaireau ?»
J'éclatai d'un rire bref. Disons, de serre en général. Il demanda en indiquant les marques de griffures sur ma gorge.
« Et qui vous a fait ça ?»
Une chatte, dis-je sans avoir eu le temps de réfléchir. Il crut à une plaisanterie paillarde et s'esclaffa. Et nous bavardâmes ainsi quelque temps, le vieux garde et moi. J'observais son visage couvert de balafres, hochais la tête et souriais à ses souvenirs de Soudard, et ne découvrais nul indice qu'il m'eût reconnu. J'aurais dû me sentir rassuré, j'imagine, que même un vieil ami comme l'âme n'identifie pas Fitz chevalerie loin-voyant. Mais non. Au contraire, ce fut un accablement sans nom qui m'envahit. Avais-je donc été si facile à oublier, si peu remarquable? J'avais du mal à suivre le fil de sa conversation, et quand je pris enfin congé, j'éprouvais comme du soulagement à le quitter avant de céder à la tentation de me trahir, de lâcher un mot, une phrase, qui lui aurait laissé penser qu'il m'avait côtoyé autrefois.
C'était une pulsion puérile, la soif d'être reconnu comme important, proche de celle qui avait poussé Rasto à se battre avec moi. Je sortis de l'étuve pour me rendre au bain, où je me débarrassais à grande eau du sel encore collé à ma peau, puis me séchais. Je retournais dans la pièce d'entrée, renfilais mes vêtements et poussais la porte extérieure. Propre, mais non rajeuni. Un coup d'œil au soleil m'apprit que l'heure approchait de la promenade à cheval de Cire Dorée. Je dirigeais mes pas vers les écuries, mais, comme je m'apprêtais à y entrer, je tombais nez à nez avec un employé qui sortait avec Manoir, Malta et un hongre gris que je ne connaissais pas. Les trois montures avaient été brossées à en avoir le poil luisant et on les avait scellées. J'expliquai à l'homme que j'étais le serviteur de Cire Dorée, mais il me dévisagea d'un air soupçonneux jusqu'au moment où une voix de femme m'interpella.
Hey, « Hé, blaireau, vous accompagnez notre prince et Cire Dorée aujourd'hui ?»«
Telle est ma bonne fortune, en effet, maîtresse Laurier, » répondis-je à la grand-veneuse de la reine. Elle portait une tenue vert chasse, avec la tunique et les jambières propres à son métier. Mais elle dégageait une toute autre impression. Elle avait relevé ses cheveux en un chignon pratique, mais informe et sans séduction, qui pourtant ne mettait sa féminité que davantage en valeur. L'employé d'écurie s'inclina brusquement devant moi et me laissa me charger des chevaux. Quand il se fut éloigné, Laurier me sourit et me demanda dans un murmure « Et comment va notre prince ?»«
Il est en excellente santé, je n'en doute pas, maîtresse Laurier. »
Je lui adressai un regard d'excuse et elle ne parut pas se froisser de ma réponse circonspecte. Ses yeux s'arrêtèrent brièvement sur l'amulette accrochée à mon cou. Gina s'était servie de sa magie des haies pour me la confectionner, afin d'inciter les gens à se sentir bien disposés à mon égard. Le sourire de Laurier gagna en chaleur, et je relevai mon col mine de rien, afin de dissimuler le charme. Elle détourna le regard et prit alors un ton plus formaliste, celui d'une grand-veneuse s'adressant à un domestique.
« Eh bien, j'espère que la promenade vous sera agréable. Veuillez transmettre mes salutations à Cire Dorée. »
« Je n'y manquerai pas, maîtresse. Je vous souhaite aussi la bonne journée. » Et tandis qu'elle s'éloignait, je sacrai tout bas contre mon rôle. J'aurais aimé parler davantage avec elle, mais on ne tient pas une conversation privée au beau milieu des écuries. Je menai les montures devant les portes du château et attendis mes compagnons. Et l'attente dura. Le hongre du prince y paraissait accoutumé, mais Malta s'énervait manifestement, et Manoir éprouvait ma patience par diverses tactiques, depuis la brusque saccade sur les rênes jusqu'à l'attraction constante. Il me faudrait quelques heures avec elle si je voulais en faire une bonne monture, mais où trouver ce temps? Je maudis celui que j'étais en train de perdre, et puis je réprimais cette réaction. Le temps d'un serviteur appartient à son maître. Et je devais me comporter comme si c'était ma conviction. Le froid commençait à me gagner autant que l'exaspération quand un brouhaha soudain m'avertit de me redresser et d'afficher une expression plus avenante. Au bout de quelques instants, le prince et Cire Dorée franchirent les portes, entourés d'une foule d'admirateurs et de suivants. Je n'aperçus ni la future fiancée de devoir, ni aucun autre lien. Fallait-il s'en étonner? Je l'ignorais. En revanche, plusieurs jeunes femmes étaient là, dont une qui ne dissimulait pas une moue déçue. À coup sûr, elle avait espéré que le prince l'inviterait à l'accompagner. Nombre de ses semblables masculins affichaient eux aussi une mine un peu déconfite. Devoir, lui, avait une expression amène, mais les petits plis de tension au coin de sa bouche et de ses yeux m'indiquaient qu'il ne la conservait qu'au prix d'un effort. Je remarquai Civil Brezinga à l'extérieur du cercle idolâtre. Humbre avait dit qu'on l'attendait dans la journée. Il m'adressa un regard noir et j'observai qu'il s'arrangeait pour se rapprocher du prince, mais sur le flanc opposé au seigneur doré. Sa présence déclencha chez moi un picotement, à la fois d'irritation et d'inquiétude. Une fois que nous serions en route, allait-il se hâter d'apprendre à certains que j'étais parti en promenade avec le prince? Espionnait-il pour le compte des pies, ou bien était-il aussi innocent qu'on l'avait prétendu? Visiblement, à mes yeux du moins, le prince souhaitait se mettre en chemin sans tarder, et pourtant nous restâmes encore un moment, le temps qu'il dise au revoir à chacun et promette à nombre des courtisans de leur accorder ultérieurement son attention.
Il se débrouilla de ses formalités avec grâce et courtoisie, et je me rendis compte que c'était par le fil d'art entre nous que je sentais l'irritation et l'impatience que lui inspiraient les nobles aux beaux atours qui l'entouraient. Je me surpris alors, comme devant un cheval rétif, à lui transmettre des pensées calmes et apaisantes. Il me jeta un coup d'œil, mais je n'eus pas la certitude qu'il fût conscient de mon contact mental. Un de ses compagnons me prit des mains la bride de son cheval et tint l'animal pendant que le prince se mettait en selle. J'en fis autant avec Malta pour cire dorée, puis, sur son signe de la tête, enfourchai ma propre monture. Nous eûmes droit alors à de nouveaux adieux et souhaits de bon voyage, comme si nous nous lancions dans quelque long périple au lieu d'une simple promenade d'un après-midi. Enfin, le prince fit tourner son hongre d'un geste ferme et le fit avancer. Cire dorée l'imita, et je laissai ma noire lui emboîter le pas. Les au revoir plurent dru derrière nous. Malgré les conseils d'Imbre, je n'eus pas l'occasion de proposer un itinéraire pour notre sortie. Devoir mena le pas et nous le suivîmes jusqu'aux portes de l'enceinte, où nous dûmes à nouveau nous arrêter pour permettre aux gardes de saluer militairement leur jeune prince avant de le laisser passer. Dès l'instant où nous eûmes franchi les portes, il talonna sa monture, et l'allure ainsi imposée interdit toute conversation. Il quitta bientôt la route pour emprunter une piste moins fréquentée et lança son hongre gris au petit galop. Nous le suivîmes et je sentis le plaisir de ma noire de pouvoir enfin dégourdir ses muscles. Elle appréciait moins que je la retienne, car elle se savait capable de distancer sans difficulté Malta et le hongre si je lui en laissais le loisir. La course du prince nous conduisit sur des collines ensoleillées, autrefois couvertes de bois où Vérité chassait le daim et le faisan. À présent, des brebis s'écartaient de mauvaise grâce de notre chemin, tandis que nous traversions leur pâturage. Nous poussâmes dans la région plus sauvage et vallonnée qui s'étendait au-delà, sans échanger le moindre mot. Quand nous eûmes laissé derrière nous les troupeaux qui paissaient, Devoir lâcha la bride à son gris, et nous nous mîmes à galoper dans les collines comme devant un ennemi. Manoir avait perdu de sa nervosité lorsque le prince ramena enfin son cheval au pas. Cire dorée se plaça derrière lui, tandis que les bêtes s'ébrouaient et soufflaient. Pour ma part, je restai à l'arrière jusqu'au moment où le prince se retourna dans sa selle et d'un geste irrité me fit signe de le rejoindre. Je laissai Manoir le rattraper et Devoir, en guise de salut, me demanda d'un ton glacé. « Où étiez-vous passé? Vous aviez promis d'assurer ma formation. Or, je ne vous ai pas vu depuis notre retour à Castelserre. » Je retins d'extrême justesse la réponse qui m'était venue aussitôt. Je ne devais pas oublier qu'il s'adressait à moi comme un prince à un domestique, non comme un fils à son père. Néanmoins, mon silence parut avoir sur lui l'effet d'une réprimande. Il ne prit certes pas l'air contrit, mais je reconnus le pli têtu de ses lèvres. Je finis par répondre. « Mon prince, nous sommes revenus depuis 2 jours à peine. J'ai supposé que les obligations de votre rang vous tiendraient fort occupé. En attendant, j'ai repris les tâches de ma propre existence. Je pensais, s'il plaisait à mon prince, que vous me feriez mander quand vous souhaiteriez ma présence.
« Pourquoi vous exprimer ainsi ? » s'exclama-t-il avec colère. « Mon prince par-ci, mon prince par-là, vous ne me parliez pas de cette façon alors que nous rentrions chez nous. Qu'est-il advenu de notre amitié ?»
Je perçus la mise en garde du fou dans le coup d'œil que me jeta Cire Dorée. Mais je n'en tins pas compte et dis d'une voix basse et mesurée. « Si vous me réprimandez comme un domestique, mon prince, j'en conclus que je dois répondre d'une façon appropriée à ma condition.
« Arrêtez !»
s'exclama Devoir avec colère, comme si je me moquais de lui. Il n'avait pas tout à fait tort, mais l'effet en fut désastreux. Ses traits se crispèrent et je crus qu'il allait pleurer. Puis il fit avancer son cheval au trot et nous le laissâmes partir. Le seigneur doré hocha la tête d'un air désapprobateur et me fit signe de remonter à la hauteur du garçon. J'avais envie d'obliger le prince à tirer les rênes et à nous attendre, mais il n'était peut-être pas capable d'en rabattre à ce point. L'orgueil d'un adolescent manque souvent de flexibilité. Je laissai Manoir rattraper le gris à son train, et avant même que j'ouvre la bouche, Devoir déclara.
J'ai mal engagé cette conversation. Je me sens assiégé, acculé, et furieux d'être pieds et poings liés. Ces 2 derniers jours ont été affreux. Oui, affreux. Je dois me conduire avec la plus parfaite courtoisie même quand j'ai envie de hurler de rage et sourire aux compliments fleuris qu'on m'adresse sur une situation que je donnerais tout pour éviter. Tout le monde me croit heureux et impatient. Et j'ai entendu assez d'anecdotes paillardes sur la nuit de noces pour donner la nausée à un bouc. Mais personne ne sait le deuil que je porte, ni ne s'y intéresse. On ne s'est même pas aperçu de l'absence de ma Marguette. Je n'ai personne à qui parler de ma peine. » Sa voix s'étrangla soudain. Il tira les rênes, se tourna vers moi et prit une grande inspiration. « Pardon. Je m'excuse, Tom Blaireau. » Sa brutale franchise et sa façon sincère de me tendre la main m'évoquèrent en vérité que je ne doutais plus que c'était bien son esprit qui avait engendré ce garçon. J'éprouvais un sentiment de mortification devant ma propre attitude. J'acceptais solennellement sa main, puis l'attirai pour poser la mienne sur son épaule. Trop tard pour les excuses. Fis-je d'un ton grave, je vous ai déjà pardonné. Je repris mon souffle et le lâchai. Moi aussi, j'ai l'impression de me trouver dos au mur et mon caractère s'en ressent. J'ai eu tant de tâches à remplir que j'ai eu à peine le temps de voir mon propre fils. Je regrette de n'avoir pas cherché à vous contacter plus tôt, mais j'ignore comment organiser nos rendez-vous sans révéler que je vous ai pris comme élève. Cependant, vous avez raison, ces leçons doivent avoir lieu, et ce n'est pas en tergiversant que nous y arriverons. Le visage du prince s'était figé pendant que je parlais. J'avais senti une distance s'instaurer entre nous, mais je n'en compris la raison qu'au moment où il fit à voix basse. « Votre fils ?» Son inflexion m'intrigua. Mon fils adoptif, Heur, il est en apprentissage chez un ébéniste de Bourg de Castelser. Ah. Les échos de cette seule exclamation parut mourir peu à peu dans le silence. Enfin, il reprit. J'ignorais que vous aviez un fils. Sa jalousie se parait d'un masque de courtoisie, mais, par mon lien avec lui, je la sentais comme une plaie ouverte. Je ne savais comment y répondre. Aussi lui dis-je la vérité. Il vit avec moi depuis l'âge de 8 ans à peu près. Sa mère l'avait abandonné et personne ne voulait de lui. C'est un bon garçon. Mais ce n'est pas vraiment votre fils, observa le prince. Je répondis d'un ton ferme. Je le considère comme tel, même s'il n'est pas de ma chair. Sire Doré avait arrêté son cheval non loin de nous, mais je n'osais pas le consulter du regard. Le prince se tut un long moment, puis il serra les genoux et sa monture se mit au pas. Je laissai Manoir imiter son train, tandis que le fou nous suivait en retrait. À l'instant où je m'apprêtais à rompre le silence avant qu'il ne se transforme en muraille infranchissable entre nous, Devoir déclara tout à trac. « Alors quel besoin avez-vous de moi, si vous avez déjà un fils ?» La jalousie avide que je perçus dans son ton me laissa pantois. Elle dut le surprendre lui aussi, car, d'un brusque coup de talon, il lança son cheval au trot et me devança de nouveau. Je ne cherchais pas à le rattraper avant que le fou ne me soufflât. « Rejoins-le. Ne le laisse pas se fermer à toi. Tu devrais savoir, depuis le temps, combien il est facile de perdre quelqu'un simplement en ne le retenant pas. » Toutefois, ce fut sur l'ordre de mon cœur, je crois, que je talonnais Manoir pour remonter à la hauteur du gamin. Car c'était bien à un gamin qu'il ressemblait à présent, avec son menton fermement levé et son regard buté. Il ne tourna pas les yeux vers moi, mais je sus qu'il m'écoutait. « Quel besoin j'ai de vous ? Vous-même. Quel besoin avez-vous de moi ? L'amitié ne se fonde pas toujours sur la nécessité de voir. Cependant, je vous le dis sans détour. J'ai besoin de vous dans mon existence, à cause de ce que votre père représentait pour moi, et parce que vous êtes le fils de votre mère, mais surtout parce que vous êtes ce que vous êtes, et que nous avons trop en commun pour que je puisse me désintéresser de vous. Je ne veux pas vous voir grandir ignorant de vos magies, comme je l'étais. Si je puis vous épargner les tourments que j'ai endurés, je me serais peut-être sauvé moi aussi par la même occasion. » Je me trouvais soudain à court de mots. Peut-être, comme le prince Devoir, éprouvais-je de la surprise devant mes propres pensées. Il arrive que la vérité jaillisse de soi comme le sang d'une blessure, et ce peut être un spectacle aussi déconcertant. Parlez-moi de mon père. De son point de vue, sa requête découlait peut-être logiquement de mes propos, mais du mien. Elle était totalement inattendue, et je me sentis sur le fil du rasoir. En conscience,
Je me devais de lui dire tout ce que je savais de vérité, mais comment lui narrer des anecdotes sur son père sans révéler ma véritable identité? J'avais décidé une fois pour toutes qu'il resterait dans l'ignorance de mon ascendance. Ce n'était pas le moment de lui apprendre que j'étais fils de chevalerie loin-voyant, le bâtard au vif, ni qu'il était né de ma propre chair. Il lui serait beaucoup trop difficile de comprendre que l'esprit de vérité, par la force de sa magie de l'art, avait possédé mon corps pendant ces heures cruciales. À vrai dire, j'avais moi-même du mal à l'accepter. Aussi, à la manière d'Imbre avec moi jadis, je biaisais. Qu'aimeriez-vous savoir de lui?
N'importe quoi, tout.
Il s'éclaircit la gorge.
On ne m'a jamais beaucoup parlé de lui. Imbre évoque parfois des souvenirs de lui enfant, et j'ai lu les archives officielles de son règne, qui deviennent d'ailleurs très vagues après son départ pour sa quête. J'ai entendu des ménestrels interpréter des chansons sur lui, mais il y est présenté comme une figure de légende, et aucune n'est d'accord avec les autres sur la façon dont il s'y est pris pour sauver les six duchés. Quand je pose des questions sur ce sujet, ou l'homme qu'il était, tout le monde se tait, comme si personne ne le savait, ou bien comme si je touchais à un secret honteux que j'étais le seul à ne pas connaître.
Aucun secret honteux ne reste attaché au nom de votre père. C'était quelqu'un de probe et d'honorable. Mais j'ai peine à croire que vous en sachiez si peu sur lui. Votre mère elle-même ne vous en dit jamais rien ? Demandai-je incrédule. Il poussa un soupir et ramena son cheval au pas. Manoir tira sur son mors, mais je la bridai à l'allure du prince.
Ma mère parle de son roi, parfois de son époux, et dans ces occasions, je sens qu'elle le pleure encore. C'est pourquoi je répugne à l'accabler de questions. Pourtant, je veux connaître mon père, connaître l'homme qu'il était.
Ah ! De nouveau, nos points communs me frappèrent. Moi aussi, j'avais été avide d'apprendre les mêmes vérités sur mon propre père. Les seules évocations concernaient chevalerie, l'abdicateur, le roi servant déchu de son trône avant même de s'y être vraiment assis. Tacticien brillant et habile négociateur, il avait renoncé à son avenir de souverain pour étouffer le scandale de mon existence. Non seulement le noble prince avait engendré un bâtard, mais il l'avait eu d'une montagnarde anonyme, ce qui rendait son mariage infécond, encore plus intolérable pour son royaume sans héritier. Voilà tout ce que je savais de mon père. J'ignorais quelle forêt il aimait, ou s'il avait le rire facile. J'ignorais tout de ce que c'est un fils qui a grandi aux côtés de l'auteur de ses jours.
Tom ? Fit Devoir d'un ton intrigué.
Je réfléchissais, répondis-je, et c'était vrai. Je m'efforçais d'imaginer ce que j'aimerais savoir moi-même sur mon père. Tout en songeant ainsi, j'observais les collines alentour. Nous suivions une piste tracée par les animaux sauvages qui traversaient une prairie envahie de broussailles. Je scrutais les arbres qui poussaient au bas des piémonts, mais n'y relevais, ni par la vue, ni par mes autres sens, nulle trace de la présence d'humains. Vérité, ma foi, c'était un homme bien découplé. Presque aussi grand que moi, mais avec un poitrail de taureau et des épaules en conséquence. En tenue de combat, il avait autant l'air d'un soldat que d'un prince, et je crois que parfois, il aurait préféré la vie plus active du premier. Il n'appréciait pas particulièrement la guerre, mais il aimait le grand air et ne tenait pas en place. Il adorait la chasse. Il avait un chien de loup baptisé Léon, qui le suivait partout, et...
Il avait donc le vif ?
Demanda le prince avec empressement. « Non, » répondis-je effaré. « Il éprouvait seulement une profonde affection pour cet animal, et...
Alors pourquoi ai-je le vif ? On dit que c'est de famille. »
Je haussai les épaules un peu désorienté. Ce garçon sautait d'un sujet à l'autre comme une puce de chien en chien. Je tâchais de le suivre. C'est comme l'art, j'imagine, qui est normalement la magie des loin-voyants. Ce qui n'empêche pas un enfant né chez un pêcheur d'en manifester le don. On ne sait pas ce qui fait qu'on est doué ou non de magie. D'après Civil Brezinga,
Le vif appartient à la lignée des loin-voyants. Il dit que le prince Pi tenait peut-être sa magie autant de sa mère royale que de son père roturier. Parfois, elle reste latente, dans deux familles différentes, mais quand elles se croisent, le don apparaît. C'est comme une portée de chaton où l'un a la queue cassée alors que tous les autres sont normaux.
« Et quand Civil vous a-t-il parlé de ça ?» demandai-je d'une voix tendue. Le prince me jeta un regard intrigué, mais répondit « Ce matin, à son arrivée de Castelmyrte ?» En public, j'étais épouvanté. J'observais que Sire Doré s'était discrètement rapproché.
« Non, bien sûr que non. Il était très tôt. Je n'avais même pas encore pris mon petit déjeuner. » Il s'est présenté chez moi et m'a demandé audience d'un ton pressant.
« Et vous l'avez laissé entrer comme ça ?» Devoir se tut et me dévisagea un moment, puis il déclara d'un ton guindé.
« C'est un ami. Il m'a donné ma chatte, Tom, et vous savez l'importance qu'elle avait pour moi. »
« Je sais également quel but servait ce cadeau, et vous aussi. » « Civil Brisinga est peut-être un traître dangereux, mon prince. Il a conspiré avec l'épi pour vous arracher à votre trône et même à votre propre corps. Il faut être plus prudent. » Devoir avait rosi des oreilles sous ma réprimande. Pourtant, il parvint à conserver un ton uni.
Il dit que c'est faux, qu'il n'a jamais comploté avec l'épi. Dans le cas contraire, croyez-vous qu'il serait venu me trouver pour expliquer son attitude? Sa mère et lui ignoraient tout du rôle de la Marguette. Ils ne savaient même pas que j'avais le vif quand ils me l'ont donné. « Oh, ma petite chatte !»
Sa voix se brisa, et je compris qu'il ne pensait plus qu'à la mort de sa compagne de vif. La bise glacée de la douleur soufflait dans ses derniers mots, et elle attisa mon propre chagrin. J'eus le sentiment de retourner le couteau dans la plaie quand je demandais. Dans ces conditions, pourquoi ont-ils obéi? Il a dû leur paraître étrange qu'on requière d'eux un tel service, que quelqu'un vienne chez eux, leur remette un marguet et leur dise « Tenez, donnez-le au prince ». En outre, ils n'ont jamais révélé qui le leur avait confié. Devoir ouvrit la bouche, puis se ravisa.
« Civil m'a parlé en confidence. Je ne sais pas si j'ai le droit de trahir ses propos. »
« Lui avez-vous promis de vous taire ?» demandai-je, redoutant la réponse. Il fallait que je sache ce que Civil lui avait dit, mais je ne voulais pas l'obliger à rompre un serment. Il me regarda d'un air abasourdi.
« Voyons, Tom, un noble n'exige pas de son prince qu'il promette de se taire. Cela ne siérait pas à nos rangs respectifs. »
« Contrairement à votre présent entretien, » intervint le fou d'un ton ironique.
À cette remarque inattendue, le prince éclata de rire, dissipant la tension qui grandissait entre nous et dont je n'avais pris conscience qu'à l'instant où le fou l'avait désamorcée. J'éprouvais une impression étrange à ne m'apercevoir que maintenant de ce talent chez lui, alors que je le connaissais depuis des années.
« Vous avez raison, » reconnut le prince.
Et dès lors, nous partageâmes à trois la conversation, nos chevaux de front. Pendant un moment, rien ne rompit le silence que le claquement des sabots et le murmure de la brise froide, puis Devoir reprit la parole.
Il ne m'a soutiré aucune promesse, mais il s'en est remis à moi. Il s'est agenouillé devant moi pour me présenter ses excuses. Je pense qu'une telle attitude donne droit à ne pas voir ses confessions criées en place publique.
Ce n'est pas moi qui les révélerai, mon prince, ni le fou. « Je vous le promets. Je vous en prie, dites-moi ce qu'il vous a appris. »«
Le fou ?»
Devoir se tourna vers Sire Doré avec un sourire ravi. L'intéressé eut un grognement dédaigneux.
« Une vieille plaisanterie entre vieux amis, et beaucoup trop éculée pour prêter encore à rire, Tom Blaireau, »
ajouta-t-il à mon intention d'un ton d'avertissement. Je courbai la tête sous le reproche sans pouvoir m'empêcher de sourire moi aussi, tout en espérant que le prince accepterait cette explication improvisée. La gorge nouée, je me mordais les doigts de mon imprudence. Une partie de moi-même avait-elle envie de révéler mon identité au prince? Je me sentais un nœud à l'estomac, vieille impression familière qui trahissait mes remords de sceller des secrets à ceux qui me faisaient confiance. Ne m'étais-je pas promis un jour que cela n'arriverait plus jamais? Si, mais avais-je le choix? Je me tus donc tandis que Sire Doré entreprenait d'arracher ce qu'il savait au prince.
si vous nous révélez la teneur de votre entretien, je vous promets que ma bouche resterait cousue. À l'instar de Tom, je doute de la loyauté de Civil Brezinga envers vous, en tant qu'intime comme en tant que sujet. Je crains que vous ne soyez en danger, mon prince.
« Civil est mon ami ?» répondit Devoir d'un ton qui n'admettait pas la contradiction, et sa foi d'adolescent en son propre discernement m'effraya.
« Je le sais au plus profond de moi-même. En revanche, et une expression étrange passa sur ses traits, il m'a mis en garde contre vous, Sire Doré. Il paraît éprouver pour vous une extrême aversion. »
Résultat d'un léger malentendu entre nous lors de mon séjour chez lui, répliqua l'intéressé avec désinvolture. Nous le réglerons bien vite, je n'en doute pas.
Je n'en étais pas aussi certain, mais le prince parut se satisfaire de l'explication. Il demeura songeur quelque temps et obliqua vers l'ouest pour longer la forêt. Je fis manœuvrer ma noire pour me placer entre Devoir et d'éventuels assaillants dissimulés dans les arbres, puis m'efforçai de surveiller à la fois les bois et mon prince. Je repérai un corbeau à la cime d'un arbre proche et me demandai morose s'il s'agissait d'un espion d'épis. Si c'était le cas, je n'y pouvais pas grand-chose. Mes compagnons ne parurent pas remarquer l'oiseau, et Devoir se décida à parler à l'instant où le corbeau s'élançait en croassant de sa branche et s'éloignait.
Les Brezinga avaient reçu des menaces d'épis, dit le prince avec réticence.
Civil n'a pas voulu me préciser lesquelles. Il m'a seulement révélé qu'elles étaient très indirectes.
La marguette a été confiée à sa mère, avec un mot d'instruction pour qu'elle me donne l'animal en guise de présent. En cas de refus d'obéissance, elle devait craindre des représailles, mais Civil s'est abstenu de m'en fournir les détails.
« Je les devine, » déclarai-je sans embâge. Le corbeau avait disparu, mais je ne m'en sentais pas davantage en sécurité.
S'il ne vous remettait pas la marguette, l'un d'eux serait dénoncé comme vifier, sans doute Civil.
C'est vraisemblable, en effet, fit le jeune garçon.
Ça n'excuse rien. Dame Brezinga avait un devoir envers son prince.
À part moi, je décidai de trouver un moyen de surveiller la chambre de Civil. Une visite et une fouille discrète me paraissaient s'imposer aussi.
Avait-il amené son propre marguet ?
Devoir me regarda dans les yeux, et c'est avec la brutale franchise de vérité qu'il me demanda.
« Seriez-vous capable de faire passer vos obligations envers votre monarque avant la protection d'un membre de votre famille ?»
Je me suis moi-même posé la question. Si l'on menaçait ma mère, à quoi pourrait-on me forcer ? Trahirais-je les six duchés pour lui sauver la vie ?
Sire Doré m'adressa un coup d'œil dans lequel je reconnus le fou, un fou enchanté de l'attitude du garçon.
Je hochai la tête, mais distraitement.
Les propos de Devoir avaient déclenché en moi comme une démangeaison.
J'avais soudain le sentiment de négliger un souvenir important, mais j'étais incapable de remonter cette idée jusqu'à sa source.
Comme je ne trouvais pas non plus de réponse à la question de Devoir, le silence se prolongea jusqu'au moment où je déclarai.
« Soyez prudent, mon prince. Je vous déconseille de placer votre confiance en Civil Brezinga et de vous agréger à ses amis. »
Il n'y a guère à craindre de ce côté, blaireau.
Je n'ai pas le loisir d'avoir des amis en ce moment.
Je suis cerné par les obligations.
J'ai dû faire des pieds et des mains pour arracher cette heure à mon emploi du temps quand j'ai déclaré que je sortais avec vous deux seuls.
On m'a prévenu que cette excursion allait paraître insolite, voire déplacée au duc, dont je dois quêter l'appui, et qu'il vaudrait bien mieux que je me fasse accompagner de quelques-uns de leurs fils.
Mais j'avais besoin de ces quelques moments avec vous.
J'ai une question importante à vous poser, blaireau.
Il s'interrompit, puis demanda de but en blanc.
Assisterez-vous à ma cérémonie de fiançailles ce soir?
Si je dois en passer par là, j'aimerais avoir un véritable ami près de moi.
Je sus aussitôt la réponse, mais je fis semblant de réfléchir.
C'est impossible, mon prince. Mon statut ne me le permettrait pas. Ma présence paraîtrait encore plus déplacée que notre promenade actuelle.
Ne pourriez-vous pas venir en tant que garde du corps de Sire Doré ?
Le fou intervint.
Cela donnerait l'impression que je ne fais pas confiance à mon hôte, le prince, pour assurer ma sécurité.
Devoir tira les rênes de son cheval
et prit une expression butée. « Je veux que vous soyez là. Débrouillez-vous. »
Cet ordre direct me fit grincer des dents.
« J'y réfléchirai, » répondis-je avec raideur. Je n'étais pas encore complètement sûr de mon anonymat à Castelserre, et je souhaitais établir plus fermement mon identité de Tom Blaireau avant d'affronter des gens qui risquaient d'avoir gardé souvenir de moi. Ils seraient nombreux à la cérémonie de ce soir. Mais je tiens à vous prévenir, mon prince, que même si je suis présent, il sera hors de question que je parle avec vous, et vous ne devrez me manifester aucune attention qui pourrait attirer un intérêt indésirable sur notre relation.
« Je ne suis pas stupide, » répliqua-t-il, au bord de la colère devant mon refus oblique.
« J'aimerais seulement que vous soyez là, pour avoir au moins un ami dans la foule de ceux qui viennent assister à mon sacrifice. »«
Vous dramatisez, je crois, » dis-je d'un ton uni, en m'efforçant d'éviter de donner à ma réponse une tournure insultante.
« N'oubliez pas que votre mère sera auprès de vous, humble aussi, ainsi que Sire Doré. Tous ne songent qu'à votre intérêt. »
Il rougit légèrement et lança un regard au fou.
« Je ne mésestime nullement votre amitié, Sire Doré. Pardonnez-moi si j'ai parlé de façon irréfléchie. Quant à ma mère et à Imbre, ils sont comme moi tenus de faire passer le devoir avant l'affection. Ils ne veulent que mon bien, c'est vrai, mais, dans la majorité des cas, mon bien est d'abord celui de mon règne futur. À leurs yeux, mon bonheur est intrinsèquement lié à celui des six duchés. »
Il prit soudain l'air là. Et quand je les contredis, ils répondent qu'après quelque temps d'exercice du pouvoir, je comprendrai que les contraintes dont ils m'accablent sont un service qu'ils me rendent. Que gouverner un pays prospère et en paix m'apportera au cours des ans bien plus de satisfaction que choisir moi-même mon épouse.
Nous nous tûmes quelque temps, puis Sire Doré rompit le silence d'un ton chagrin.
« Mon prince !» Le soleil ne nous attend pas, malheureusement. Il faut songer à retourner à Castelserre.
« Je sais, » répondit Devoir d'une voix éteinte.
« Je sais. »
Les propos que je lui tins alors n'étaient d'aucun réconfort. J'en avais parfaitement conscience, mais nous sommes tous prisonniers des coutumes de la société. M'efforçant de le convaincre de sourire à son destin, je dis « Eliania ne me paraît pas une future épouse. » Trop épouvantable. Elle est très jeune, certes, mais elle possède une joliesse qui augure d'une véritable beauté à venir. Imbre la décrit comme une reine en bouton et semble très satisfait du parti que les Outriliens nous offrent.
« Oh, il a raison, » fit Devoir en faisant obliquer sa monture.
Manoir émit un reniflement désapprobateur quand le Hongre lui coupa la route et elle rechigna à le suivre. Galoper encore dans les collines l'attirait bien davantage.
Elle est reine avant d'être enfant ou femme. Elle n'a pas fait une seule faute de langage devant moi, et elle n'a pas dit un mot qui laisse entrevoir ce qui se passe derrière l'éclat de ses yeux noirs. Elle m'a remis son présent avec une correction impeccable. C'est une chaînette d'argent incrustée de diamants jaunes de son pays. Je dois la porter ce soir. En retour, je lui ai donné le cadeau que ma mère et Imbre avaient choisi. Un diadème en argent, enchâssé de 100 saphirs. Les pierres sont petites, mais, à de plus grosses, ma mère a préféré le motif raffiné qu'elle forme. La Narcheska m'a fait la révérence en acceptant le bijou, puis m'a dit en termes mesurés qu'elle le trouvait charmant. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer le vague de ses remerciements. Elle a parlé de mon « présent généreux », sans évoquer une seule fois la finesse de l'exécution, ni me préciser si elle aimait ou non les saphirs. On aurait cru qu'elle avait appris par cœur une réponse passe-partout. Elle l'avait récitée sans la moindre erreur. C'était le cas, j'en étais quasiment sûr. Pourtant, il me semblait injuste de lui en faire grief. Elle n'avait que 11 ans, tout de même, et son pouvoir de décision quant à ses fiançailles devait être égal à celui de notre prince. J'en fis la remarque à Devoir. « Je sais, je sais. »
répondit-il d'un ton las. Pourtant, j'ai cherché à croiser son regard, pour lui laisser entrevoir dans mes yeux un peu de moi-même. À son arrivée, quand elle s'est tenue à côté de moi, Tom, j'ai ressenti un élan de compassion pour elle. Elle paraissait si jeune, si menue, et si étrangère à la cour. J'ai éprouvé pour elle
ce que j'aurais ressenti pour n'importe quel enfant arraché à ses parents et contraint à servir un but qui n'est pas le sien. De mon côté, j'avais choisi un cadeau qui venait de moi et non des six duchés. Il l'attendait dans sa chambre, mais elle ne m'en a rien dit. Pas un mot.
De quoi s'agissait-il ? Demandai-je.
D'un présent qui m'aurait plu quand j'avais 11 ans. Tout un jeu de marionnettes sculptées par Épouin. Leurs costumes étaient ceux de la pièce « La jeune fille et le destrier des neiges ». J'avais appris que c'est une histoire aussi connue dans les îles d'outre-mer que dans les six duchés. D'un ton neutre, Sire Doré déclara
« Épouin est un sculpteur de talent. N'est-ce pas dans ce conte que l'héroïne est enlevée aux griffes de son cruel parâtre par son cheval magique qui l'emporte dans un pays d'abondance où elle épouse un beau prince ?»
Ce n'était peut-être pas l'intrigue idéale à choisir dans les circonstances présentes, fis-je à mi-voix.
Le prince resta interdit. Je n'avais pas songé à ce point de vue. Croyez-vous que je l'ai insulté ? Dois-je lui présenter des excuses ?
Mieux vaut en dire le moins possible pour le moment, répondit Sire Doré. Quand vous la connaîtrez mieux, vous pourrez toujours en reparler.
Oui, d'ici une dizaine d'années peut-être, fit Devoir sur le ton de la plaisanterie, tandis que je sentais vibrer son appréhension dans le lien d'art qui nous unissait. Je compris tout à coup qu'une partie de son insatisfaction tenait à son impression de ne pas plaire à la Narcheska. Et mon intuition fut confirmée lorsqu'il le reprit. À côté d'elle, j'ai le sentiment de n'être qu'un barbare mal dégrossi. Elle est issue d'un village en rondin au pied d'un glacier, et pourtant près d'elle, je me sens inculte et fruste. Quand elle me regarde, elle a des miroirs à la place des yeux. Je n'y vois que son image de moi, celle d'un rustre stupide. J'ai bénéficié de la meilleure éducation. Je suis de grande lignée, mais devant elle, je ne suis qu'un paysan aux mains pleines de terre qui risque de la souiller en la touchant. Je n'y comprends rien.
Il existe entre vous de nombreux écarts qu'il vous faudra combler ensemble à mesure que vous apprendrez à vous connaître. Admettre que vous provenez chacun d'une culture distincte, mais qui a sa propre valeur, peut constituer un premier pas dans ce sens, déclara Sire Doré avec diplomatie. Il y a plusieurs années, je me suis pris d'intérêt pour les Outriliens et j'ai étudié leur civilisation. C'est une matriarchie, comme vous le savez, et les tatouages qu'ils portent indiquent leur clan maternel. Si je ne me trompe pas, la Narcheska vous a déjà grandement honoré en venant à vous au lieu d'exiger que son prétendant se présente à la maison de ses mères. Il doit être difficile pour elle d'affronter la cour que vous lui faites sans les conseils de ses mères, de ses sœurs, ni de ses tantes.
Devoir hocha la tête d'un air pensif. Cependant, l'aperçu que j'avais eu de la Narcheska m'incitait à songer que le prince avait apprécié avec exactitude les sentiments de la jeune fille pour lui. Je gardais cette réflexion pour moi et déclarait. Manifestement, elle s'est renseignée sur les mœurs des six duchés. En avez-vous fait autant sur son pays et la famille dont elle est issue ?
Devoir m'adressa le regard oblique de l'élève qui a rapidement parcouru sa leçon et sait qu'il ne la connaît pas.
Imbre m'a remis tous les manuscrits que nous possédons en me prévenant qu'ils sont vieux et peut-être dépassés. Les Outriliens ne confient pas leur histoire au parchemin, mais à la mémoire de leur barde. Tout ce que nous en savons est décrit du point de vue de ressortissants des six duchés qui ont visité ces îles. La plupart de ces textes sont des comptes rendus de voyageurs qui expriment leur dégoût de la cuisine locale, le miel et la graisse étant apparemment les ingrédients les plus prisés, et leur effarement devant les habitations, glacées et balayées de courants d'air. D'après ce que j'ai lu, les gens de là-bas n'offrent pas l'hospitalité aux étrangers fatigués et méprisent celui qui a la stupidité de se fourrer dans une situation telle qu'il est contraint d'implorer un toit et un couvert au lieu de les obtenir par marchandage. Faiblesse et manque d'intelligence méritent la mort. Tel est, semble-t-il, le principe fondamental des Outriliens. Même le dieu qu'ils ont choisi est un dieu dur et sans pitié. Ils préfèrent l'aile de la mer à l'aida généreuse des champs.
Et le prince poussa un grand soupir.
« Avez-vous écouté un de leurs bardes ?» demanda Sire Doré à mi-voix.
« J'ai écouté, mais je n'ai pas compris. »
Sur l'insistance d'Imbre, je me suis efforcé d'apprendre les rudiments de leur langue. Elle possède de nombreuses racines communes avec la nôtre, et je la maîtrise assez bien pour me faire comprendre, même si la Narcheska m'a déclaré
qu'elle aimait mieux employer mon parler avec moi que m'entendre déformer le sien. Un instant, il resta les dents serrées au souvenir de ce reproche insultant. Puis il reprit. « Les bardes sont plus difficiles à comprendre. Naturellement, ils bénéficient de licences poétiques qui leur permettent d'allonger ou de raccourcir des syllabes selon les besoins de la métrique. Ils appellent ce système la langue des bardes. Et, lorsqu'ils y ajoutent toute la puissance de leur musique empoulée, j'ai peine à saisir davantage que le sens général des ballades. De toute façon, autant que je puisse en juger, elle n'évoque que le massacre d'ennemis dont le héros rapporte l'un ou l'autre morceau comme trophée, comme Échette Chevelie, qui dormait sous un couvre-lit formé du cuir chevelu entretissé de ses adversaires, ou Sidois, qui servait à manger à ses chiens dans le crâne évidé de ceux qu'il avait vaincus.
« Charmant, » dis-je d'un ton ironique.
Sire Doré me fit les gros yeux.
« Nos chansons doivent paraître tout aussi étranges à la Narcheska, comme les tragédies où de jeunes vierges se meurent d'amour pour un homme qu'elles ne peuvent posséder, » remarqua le fou avec douceur. « Ce sont là des obstacles que vous devrez surmonter ensemble, mon prince. Ces petites incompréhensions fondent comme neige au soleil lors de conversations à bâtons rompus. »
« C'est cela, oui, » fit le prince d'un ton aigre. « Dans 10 ans, nous pourrons peut-être bavarder, ainsi que vous le dites, mais pour le moment, cernés comme nous le sommes par ces courtisans et les miens, nous devons nous entretenir au milieu d'une véritable foule, en criant pour nous faire entendre, et chacun de nos propos est repris et discuté par tous. Et je ne parle pas de son cher oncle Péotre, qui monte la garde auprès d'elle comme un chien surveille son os. » Hier après-midi, quand j'ai voulu me promener avec elle dans les jardins, j'ai eu l'impression de conduire une horde de combat, à cause du piétinement et des jacasseries de la quinzaine de personnes qui nous suivaient. Et, quand j'ai cueilli une fleur tardive pour l'offrir à Eliania, son oncle s'est interposé pour me l'arracher des doigts et l'examiner avant de la remettre à la Narcheska, comme si j'allais essayer de l'empoisonner.
Je ne pus retenir un sourire en coin, au souvenir de la plante toxique que Kétriken elle-même m'avait fait goûter quand elle me croyait une menace pour son frère. Ce genre de fourberie n'est pas inconnu, mon prince, même dans les meilleures familles, et son oncle n'accomplit que son devoir. Nos deux pays étaient en guerre il n'y a pas si longtemps. Laissez le temps refermer et guérir les anciennes blessures. Cela viendra.
Mais pour le moment, il nous faut hélas donner du talon à nos montures, fit Sire Doré. « Ne vous ai-je pas entendu dire que vous aviez un rendez-vous cet après-midi avec votre mère? Il serait peut-être bon d'accélérer un peu l'allure. »«
Sans doute, » répondit Devoir d'un ton distrait. Soudain, il se tourna vers moi avec une expression autoritaire.
« Alors, Tom Blaireau, à quand notre prochaine entrevue? Je suis très impatient de commencer mes leçons. »
Je hochai la tête. J'aurais aimé partager son enthousiasme, mais l'honnêteté me contraignit à déclarer. L'art n'est pas toujours une magie clémente pour qui l'étudie, mon prince. Vous risquez de trouver vite ses leçons moins attrayantes que vous n'imaginez.
Je m'y attends. Jusqu'ici, mes expériences dans ce domaine ont été à la fois déroutantes et inquiétantes.
Son regard devint vague et lointain.
Quand vous m'avez emmené, je sais qu'il y avait un rapport avec un pilier. Nous sommes arrivés quelque part sur une plage. Mais quand j'essaye de me remémorer cet épisode, les événements qui se sont déroulés à ce moment, ou tout de suite après, c'est comme tenter de me rappeler un rêve de mon enfance. Les éléments ne s'imbriquent pas les uns dans les autres. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Je croyais comprendre ce qui m'était arrivé, mais lorsque j'ai voulu en parler à Imbre et à ma mère, tout est parti en lambeaux. Je me suis senti très bête.
Il leva la main pour frotter son front barré de plis.
Je suis incapable d'emboîter les morceaux pour obtenir un souvenir complet.
Il planta son regard dans le mien.
C'est insupportable, Tom. Je dois résoudre cette énigme. Si cette magie est destinée à faire partie de moi, il faut que je la maîtrise.
Son attitude était beaucoup plus intelligente que ma propre répugnance à étudier l'art. Je poussai un soupir.
Demain, à l'aube, dans la haute salle de la Tour de Vérité, dis-je en pensant qu'il allait refuser.
D'accord,
répondit-il sans réticence. Un curieux sourire étira ses lèvres.
Je croyais qu'Imbre était le seul à désigner la tour du guet de la mer sous le nom de tour de vérité.
C'est intéressant.
Vous auriez au moins pu dire, en parlant de mon père, le roi vérité?
Pardon, mon prince.
Je n'avais rien trouvé de mieux à répondre, et il repartit seulement d'un grognement moqueur. Soudain, il posa sur moi un regard impérieux.
« Vous ferez tout pour assister à ma cérémonie ce soir, Tom Blaireau. »
Avant que j'aie le temps de réagir, il talonna son cheval gris, se hâtant vers Castelserre comme un homme pris en chasse par une troupe de démons, et nous ne pûmes que le suivre. Il ne ralentit qu'aux portes de la citadelle, où nous nous arrêtâmes pour permettre aux gardes de nous identifier et de nous laisser entrer. À partir de là, nous continuâmes au pas, mais Devoir garda le silence, et je ne trouvais rien à dire. Des courtisans grouillaient déjà devant les hautes portes du château. Un valet se précipita pour saisir le harnais de tête de la monture princière, tandis qu'un palefrenier prenait les rênes de Malta. On me laissa me débrouiller seul, et je m'en réjouis. D'un ton empesé, Sire Doré remercia le prince de lui avoir donné l'extrême plaisir de sa compagnie exclusive, à quoi Devoir fit une réponse courtoise, puis le fou et moi, sur nos chevaux, le regardâmes se laisser engloutir et emporté par la masse de courtisans. Je fis pivoter ma noire et attendis les instructions de mon maître.
Eh bien, c'était une bien agréable promenade, fit-il, et il mit pied à terre.
Comme sa botte effleurait le sol, elle parut glisser sous lui, et il tomba lourdement. Jamais je n'avais vu le fou manquer de grâce à ce point. Il se redressa sur son séant, les lèvres serrées, puis se pencha en gémissant pour saisir sa cheville à deux mains.
« Paré d'un, que c'est donc douloureux !» s'écria-t-il avant de lancer péremptoire. « Non, non, n'approchez pas! Occupez-vous plutôt de ma jument !»
Et il chassa le palefrenier d'un geste de la main. Il s'adressa ensuite à moi d'un ton cassant.
« Eh bien, ne restez donc pas planté la gourde que vous êtes! Donnez votre cheval au garçon d'écurie et aidez-moi à me relever! Voulez-vous que je regagne ma chambre à cloche-pied ?»
Le prince se trouvait déjà loin, entraîné par la vague bavarde des dames et des seigneurs, et il ne s'était certainement pas rendu compte de l'accident de Sire Doré. Quelques-uns de ses suivants s'étaient tournés vers nous, mais la plupart n'avaient Dieu que pour Devoir. Je m'accroupis donc, et, tandis que mon maître passait le bras sur mes épaules, je lui demandai à mi-voix. « Est-ce grave ?»«
Très !»
répliqua-t-il sèchement.
Je ne pourrais pas participer au bal de ce soir, alors qu'on m'a livré hier mes nouveaux escarpins de danse. Oh, c'est trop injuste. Aidez-moi à remonter chez moi, Blaireau.
En entendant ces propos irrités, plusieurs nobliaux se hâtèrent vers nous, et ses manières changèrent aussitôt. Il répondit à leurs questions inquiètes que tout allait certainement s'arranger, et que rien ne pourrait l'empêcher de se présenter aux festivités des fiançailles. Il s'appuya lourdement sur moi, mais un jeune homme compatissant prit son autre bras, et une dame envoya sa servante ordonner qu'on fasse chauffer de l'eau, qu'on apporte sans attendre des herbes à emplâtre, dans les appartements de Sire Doré, et qu'on envoie chercher un guérisseur. Deux jeunes seigneurs et trois dames tout à fait charmantes nous suivirent dans notre traversée de Castelserre. Le temps que nous parvenions chez mon maître, avec force embardée claudiquante dans les couloirs et les escaliers, il m'avait accablé de reproches au moins une dizaine de fois pour ma maladresse. Le guérisseur et l'eau chaude nous attendaient devant la porte. L'homme me déchargea de Sire Doré, et l'on me fit aussitôt redescendre en quête d'eau-de-vie pour calmer les nerfs du patient, et de quoi le sustenter. En sortant, j'eus une grimace compatissante en entendant les cris perçants de douleur que lui arrachait le guérisseur en lui retirant sa botte. Quand je remontais, porteur d'un plateau garni de pâtisseries et de fruits prélevés aux cuisines, le mire était parti. Sire Doré était enfoncé dans son fauteuil, le pied soutenu par un tabouret, et sa petite cour compatissante occupait les autres sièges. Je posais le plateau sur la table et apportais son eau-de-vie au fou. Dame Calendule s'apitoyait sur lui et s'indignait du manque de cœur et de la compétence du guérisseur. Quel incapable ! Occasionner tant de souffrance à ce pauvre Sire Doré pour déclarer finalement qu'il ne décelait guère de signe d'une lésion ? Le jeune seigneur Chêne, lui, raconta l'histoire longue, détaillée et pitoyable du médecin de son père qui avait failli le laisser mourir d'un mal à l'estomac dans des circonstances similaires.
Quand il parvint enfin à la conclusion de son anecdote, Sire Doré fit appel à la compréhension de tous. Il avait besoin de repos à la suite de son accident. Dissimulant mon soulagement, je saluai chacun alors qu'il quittait la pièce. J'attendis que la porte fût fermée et que le bruit de bavardage et de pas se fût éteint pour revenir près du fou. La tête appuyée contre son dossier, il avait posé sur ses yeux un mouchoir parfumé à la rose. « C'est grave ?» demandai-je à voix basse.
« Autant qu'il siéra à ton bon plaisir ?»
répondit-il sans ôter le carré de tissu de son visage.
« Quoi ?»
Il souleva le mouchoir et m'adressa un sourire empreint d'espièglerie.
« Toute cette esbrouffe est rien que pour toi. Tu pourrais au moins manifester quelque gratitude.
Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Il posa son pied bandé par terre, se leva et se dirigea d'un pas désinvolte vers la table où il choisit quelques friandises parmi les reliefs du plateau. Il ne boitait même pas.
Désormais, Sire Doré a une excuse pour se faire accompagner de son serviteur Tom Blaireau ce soir. Je m'appuierai sur ton bras pour me déplacer et tu porteras mon petit repose-pied et mon coussin. Tu iras me chercher ce que je demanderai, tu transmettras mes salutations et mes messages dans toute la salle. Devoir te verra présent et tu bénéficieras d'un meilleur point de vue pour tes petites tâches d'espion que dans les passages secrets des murs. »
Il me jeta un coup d'œil critique tandis que je le regardais bouche bée.
« Heureusement pour nous deux, la nouvelle livrée que je t'ai commandée est arrivée ce matin. Viens donc t'asseoir, que je reprenne ta coupe de cheveux. Tu ne peux pas assister au bal avec une tête pareille. »